La rencontre spirituelle aujourd'hui sera donc question, bien que ce soit le lundi de Pâques, il n'y aura pas d'émission spéciale, il y en a eu plusieurs la semaine dernière, et il sera question de Mère Élisabeth Bruyère, comme on vient de vous l'annoncer d'ailleurs. Elle est morte en 1876, donc il y a déjà plus de 100 ans. Elle était née à l'Assomption, cette jeune fille, Élisabeth Bruyère, ou Bruguière, comme s'appelait son père d'ailleurs. C'est une transformation du nom, comme ça arrive souvent dans nos familles. Les noms se transforment légèrement. Elle est la fondatrice, elle était entrée chez les Sœurs Grises de Montréal. Elle a été 6 ans Sœur Grise et déjà très jeune, dans la vingtaine, elle était tellement remarquable qu'elle a été nommée pour fonder les Sœurs Grises dans des circonstances extrêmement difficiles à Ottawa, alors qu'il n'y avait à peu près que 6000 personnes qui vivaient dans des conditions terribles. Et je vais vous décrire ça, c'est passionnant, c'est un moment de l'histoire du Canada qui tourne autour de cette femme exceptionnelle, Élisabeth Bruyère, et qui nous montre bien que la vie d'Élisabeth Bruyère, qui est née en 1818, morte en 1876, se situe dans l'histoire du Canada à une époque donc qui est caractérisée par des événements importants que l'on connaît. C'est l'époque de l'organisation politique du Canada. C'est l'époque aussi du réveil religieux qui s'opère un peu partout. Puis des premières grandes immigrations au pays, en particulier celle des Irlandais. C'est une immigration qui favorise surtout l'élément anglais du Canada, qui a conquis le Canada en 1760, alors qu'il n'y avait que des Français, pour ainsi dire, des francophones. Et on songe, on essaie, n'est-ce pas, de noyer la population française. Le Canada a connu dans cette même période des années terribles, au temps d'Élisabeth Bruyère, à cause de 4 épidémies de choléra, puis d'une épidémie de typhus. On n'a pas idée de ça aujourd'hui, des épidémies épouvantables. L'épidémie de typhus a eu lieu en 1847. En ce qui regarde l'Église, c'est l'élan missionnaire au pays. On cherche à christianiser davantage l'Ouest et le Grand Nord. Et c'est l'effort fourni surtout par les oblats de Marie Immaculée, dont je vous ai déjà parlé, en parlant de plusieurs oblats de Marie Immaculée, dont leur fondateur, leur saint fondateur, et oui, aussi les Sœurs Grises, qui ont été extraordinaires. Et elles ont travaillé aussi dans les villes. Et pour ce qui est de la ville d'Ottawa, justement, c'est là que Mère Bruyère va prendre des initiatives missionnaires fantastiques. C'est vraiment une grande femme. Je rappelle qu'Ottawa a été fondée par le colonel Bye, B-Y, tout simplement, c'est un curieux nom, hein, Bye, B-Y, en 1826, à la jonction du canal Rideau puis de la rivière Ottawa. Hein. Et Ottawa s'est appelé donc Bytown, en l'honneur de ce colonel By, jusqu'en 1854, mais on va oublier ça, je vais toujours parler d'Ottawa plutôt que de Bytown. Quoique, il y a une anecdote au sujet de Bytown qui est très intéressante, que l'on peut retrouver dans un livre de Lucien Brault, paru à Ottawa en 1942 aux éditions de l'Université d'Ottawa. Ottawa, capitale du Canada, de son origine à nos jours. Il nous raconte qu'est-ce que c'était que cette ville au moment de l'arrivée d'Élisabeth Bruyère. Il n'y avait pas d'école pour les enfants de Bytown, comme on dit dans le temps. Les enfants qui grandissent sans instruction. Il n'y a pas d'hôpital pour les malades, imaginez. Tout ça est constaté par l'oblat de Marie Immaculée, d'ailleurs, le père Telmont. C'est pour ces œuvres-là qu'il a demandé comme collaboratrice des Sœurs Grises de Montréal. Ce sont 4 religieuses, dont Mère Bruyère, qui viennent, 4 seulement, n'est-ce pas, dans ce nouveau champ difficile d'apostolat. Et l'atmosphère est tendue dans ce milieu de bûcherons. Oui, ce sont surtout des bûcherons. Et il y a des chansons là-dessus que l'on chante, n'est-ce pas, on connaît ça dans notre folklore. Et les bûcherons qui sont embauchés par Philémon Wright. Et pour ces concessions forestières là, de la Gatineau puis de l'Outaouais supérieure. La situation paroissiale est difficile. Il y a une population hétéroclite de 6 000 âmes, comme je vous ai dit, Qui sont ces gens? Mais il y a des Canadiens français, des Irlandais catholiques, des Irlandais protestants, en bonne partie, qui viennent du nord de... Et puis, d'autres protestants. Et les Irlandais du nord, ce sont surtout les Shiners. Shiners, on les appelle comme ça. Ce sont des espèces de mécréants qui viennent du nord de l'Irlande et qui portent une espèce d'esprit agressif terrible. Je lis pour le plaisir de la chose, c'est très étrange sur le plan historique. Il y a une description qui est bien peu flatteuse de ces gens-là que fait Lucien Brault dans Ottawa, capitale du Canada, de son origine à nos jours, paru donc à l'Université d'Ottawa en 1942. C'est page 57. Il dit « Il est impossible de parler des batailles à Bytown sans dire un mot des Shiners. » Ils devaient briller plus que les autres. Ce sont des gens qui étaient en partie responsables de la mauvaise réputation de la place. Les premiers bûcherons de la vallée de l'Ottawa étaient généralement des Canadiens français. Écoutez bien, ça c'est incroyable. Vers 1830, un groupe d'Européens tenta par intimidation de les supplanter et de les chasser de l'industrie du bois. Inspirés par le fanatisme et l'indiscipline, cette société s'acharnait à poursuivre tout ce qui était canadien. Canadien-français, quoi. Ses membres ne reculaient aucunement devant les actes les plus bas et les plus odieux, tels que, c'est incroyable, mais je le lis quand même, tels que sortir dans la rue le ménage de leurs ennemis pendant la nuit, assommer un passant paisible, gâter l'eau des puits, incendier les écuries, déshabiller les enfants en hiver pour les voir courir nus sur la neige, disperser la suite d'un enterrement, sortir le cercueil du corbillard et étendre le cadavre dans la rue. Alors, l'auteur dit « Patients et doux, d'abord, les Canadiens, français, reçurent les coups et osèrent à peine les rendre, et un jour, fatigués de ces traitements, décidèrent de relever le défi et résolurent de mettre fin à ces vexations, et les batailles devinrent quotidiennes, et finalement, les Shiners disparurent. » Ou bien, ils se tinrent tranquilles, dit l'auteur. Alors, c'est dans ce contexte étrange qu'elle va arriver. La vie de Mère Élisabeth Bruyère, morte à 58 ans seulement, se divise donc en surtout deux parties, n'est-ce pas, comme sœur de charité ou sœur grise à Montréal, de 1839 à 45, et puis, donc 6 ans, et puis fondatrice et supérieure des sœurs grises d'Ottawa, qui préfèrent se faire appeler les Sœurs de la Charité d'Ottawa aujourd'hui, n'est-ce pas? De 1845 à 1876, donc durant 30 ans environ. Élisabeth Bruyère est donc née le 19 mars, en la fête de Saint-Joseph, en 1818, dans le village de l'Assomption, au Québec, à quelques 30 kilomètres au nord de Montréal. Son père, Charles Bruguier ou Bruguière, et elle, c'est Bruyère, l'appellation différente. Sa mère s'appelait Sophie Mercier. C'est un nom connu, ce Sophie Mercier. Chez nous, il y en a des Sophie Mercier. Et ils ont eu deux autres enfants, deux garçons. Mais le foyer comptait 4 autres demi-sœurs nées d'un premier mariage du père. Élisabeth apprend à lire et à écrire de sa mère et de ses demi-sœurs qui s'intéressent heureusement à développer l'esprit de cette petite fille brillante. Et puis, ils enseignent à Élisabeth tous les rudiments du catéchisme, évidemment. Puis déjà, elle se montre enjouée, intelligente et d'une franchise absolue. Elle a quelque chose de spécial. Hein? Elle est aussi très volontaire, presque autoritaire. Et à peine âgée de 6 ans, Élisabeth Bruyère perd son papa. Elle connaît la solitude, la pauvreté, la souffrance. Alors, pour assurer le pain de ses enfants, Madame Bruyère va vivre à Montréal, où elle devient servante, dans une maison domestique, quoi. Et à Montréal, Élisabeth fréquente l'école des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame pendant 4 ans. C'est déjà un très bon départ pour son éducation, sa formation. Et elle fait sa première communion à la chapelle de Bon Secours, qu'on connaît bien, qui vient d'être rénovée, là, dans le Vieux-Montréal, à l'âge de 11 ans. Et elle reçoit la confirmation des mains de Mgr Jean-Jacques Lartigue, qui est le premier évêque de Montréal. Sa mère se remarie, et elle doit ensuite quitter Montréal pour s'établir sur une ferme dans le canton de Rawdon, où il n'y a ni école ni église. Alors la petite Élisabeth accepte de se séparer de sa mère à cause de ça pour parfaire son instruction. Grâce à la générosité, comme ça arrive souvent, d'un prêtre. C'est un cousin de sa mère, l'abbé François Caron. C'est même un homme cultivé, en particulier pour l'époque, il est remarquablement cultivé. Et Élisabeth loge donc tour à tour au presbytère de Saint-Esprit puis de Saint-Vincent-de-Paul, où ma famille a déjà habité. Saint-Vincent-de-Paul-Bouvard-l'Évêque, là. J'étais en 4706, dans une vieille maison très ancienne, très charmant. Et dans les années 40-50. Et elle était là, donc, au presbytère de Saint-Vincent-de-Paul, que j'ai bien connu. Ce sont des paroisses rurales, à l'époque, qui sont à proximité de Montréal. Et elle est donc sous l'influence de ce prêtre, le cousin de sa mère, ce prêtre de grande culture. Et grâce à l'exemple aussi des sœurs de ce prêtre, deux demoiselles Caron, quoi, l'une est une des cofondatrices des sœurs de la Providence. Elle le sera plus tard, évidemment. Et Élisabeth devient une jeune fille plutôt distinguée. Oui, j'utilise le mot distinguée, on l'utilisait beaucoup à cette époque. Et il y a encore pas longtemps, on n'ose plus dire ça maintenant, qu'une jeune fille est distinguée et instruite. Au-delà de la moyenne des femmes de son temps. Puis en 1834, là, le curé Caron, son cousin maternel, croit que sa protégée est assez instruite et sérieuse pour commencer une carrière d'enseignement. Alors, durant 3 ans, Élisabeth Bruyère sera institutrice à la petite école du Rhin. Mais ça suffit pas pour subvenir à sa pension alimentaire. Elle donne des leçons privées le soir. Et tout ça, bien, c'est un peu trop pour elle. Le travail, puis le dévouement, ça compromet vraiment sa santé, au point qu'on pense plutôt qu'elle va mourir même. Elle reçoit les derniers sacrements, comme on la disait à l'époque, l'onction des malades. Mais sans doute l'efficacité du sacrement, pourquoi pas? Elle se remet sur pied, puis elle reprend son enseignement, et c'est sa grande joie dans sa tâche accaparante, là, c'est d'aller passer ses journées de congé au presbytère de son cousin, son protecteur et son guide spirituel, pour causer avec lui. Pendant ces séjours-là, elle croit entendre l'appel du Seigneur à la vie religieuse. Elle sait pas où aller. Elle songe à un apostolat plus total que d'être institutrice. Elle choisit assez rapidement la Congrégation des Sœurs de la Charité de Montréal, les Sœurs Grises, fondée par Sainte Marguerite Diouville. Êtes-vous déjà allé au tombeau de Sainte Marguerite Diouville? C'est au coin de la rue Guy et du boulevard René-Lévesque, en plein cœur de Montréal. Et elle veut prendre soin des malheureux. C'est vraiment ce qu'elle veut faire. Elle entre donc à l'hôpital général de Montréal. C'était dans le vieux Montréal, c'est l'hôpital général. Ça n'a rien à voir avec l'hôpital général qui est à flanc du Mont-Royal aujourd'hui, qui est un hôpital plutôt anglophone. Non, elle entre donc à l'hôpital général de Montréal, des Sœurs Grises, en 1839, à l'âge de 21 ans. Et c'est une cousine charitable qui lui procure le trousseau qui était nécessaire pour entrer un trousseau. Comme les filles qui se marient avaient des trousseaux, les sœurs en avaient parce que les futures sœurs en avaient parce que les communautés étaient très pauvres, beaucoup plus pauvres qu'on pense. Élisabeth Bruyère entreprend sa période de formation religieuse avec beaucoup d'ardeur. C'est une femme de foi. Hein, elle a la foi, elle a le courage dont elle a déjà fait preuve dans le monde au cours de sa jeunesse difficile. Donc je viens de vous parler. Orpheline de père, sa mère domestique, tout ça, c'est dur. Et elle doit lutter contre les exubérances de son tempérament bilieux, ça, chez les sœurs. Et elle qui a connu du succès puis de l'appréciation dans le monde, on l'a trouvée brillante, intelligente, cultivée, etc. Elle a du cœur, elle s'attache aux tâches les plus obscures. On connaît ça, hein, quand on est novice. J'ai déjà été novice. On lui fait nettoyer les planchers, puis les salles de toilette, etc. Et parfois, sa santé en souffre. C'était alors les règlements du postulat et du noviciat. On traitait comme ça les novices, les postulants, de façon exigeante pour les former le caractère, former l'humilité aussi. Isabelle Bruyère prend donc l'habit des Sœurs Grises le 18 mai 1840. C'est une très grande joie. On n'a pas idée de la joie de ces femmes quand elles prenaient l'habit qui les intégrait dans une communauté. Je ne peux pas vous expliquer ce que c'est. Ça n'existe presque plus aujourd'hui. Elles prononcent ces vœux de religion un an plus tard, le lundi de la Pentecôte, et elle met toute sa vocation sous l'action de l'Esprit-Saint. Et pas longtemps après sa profession, où elle s'est engagée à être chaste, pauvre et obéissante, elle est immédiatement nommée à la responsabilité de première hospitalière à la salle des orphelines. Combien est-ce qu'il y a d'orphelines dans la salle? 41 adolescentes. C'est toute une famille, ça, s'occuper de ça. Elle est toute jeune encore, hein. 41 adolescentes dont elle soit s'occuper avec patience, dévouement. Et aujourd'hui, on dit que dans les garderies où elles ont une dizaine de jeunes enfants, on se plaint que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de travail. Mais dans ce temps-là, c'était pour les orphelines 24 heures par jour. 7 jours par semaine. Alors, Sœur Bruyère, encore jeune, a des responsabilités énormes parce que la tâche est souvent très lourde. Certains soirs, Sœur Bruyère s'attarde évidemment au tombeau de la fondatrice, Sainte Marguerite de Biouville. Elle l'a prie pour obtenir le même esprit de dévouement qu'on appelle chez les Sœurs Grises souvent cet esprit d'universelle charité. Sœur Bruyère, pendant 4 ans, se fait remarquer par son amour du travail. Elle a un esprit d'initiative exceptionnel, qui est toujours tempéré, évidemment, en bonne religieuse, par l'obéissance à l'autorité, ça va de soi. Et aussi, elle est surtout, je dirais, d'une très grande compassion pour les pauvres et les malheureux. Une vraie compassion, là, pas de limitation de compassion, non. C'est une vraie compassion de vraies sœurs de la charité. Et dans son rapport à Monseigneur Ignace Bourget, évêque de Montréal, dont je vous ai déjà parlé, la supérieure des Sœurs Grises, au début de l'année 1842, rend ce témoignage à l'évêque à l'égard de la jeune professe Élisabeth Bruyère. Elle vient de faire ses vœux, seulement elle n'a pas terminé, s'est pas engagée définitivement. Sœur Bruyère, novice professe, c'est comme ça qu'on les appelait. Elle était novice et professe en même temps, c'est des vœux pour 3 ans. J'explique ça pour les gens qui connaissent pas très très bien ça. S'engage pour 3 ans pour voir si ça va faire l'affaire, puis après 3 ans, il s'engage pour toujours. Alors donc, la supérieure écrit, « Sœur Bruyère, novice professe, chargée de la salle des orphelines, a 41 enfants. Cette hospitalière est seule, avec 3 filles engagées. Elle est obligée d'instruire ses enfants sur le catéchisme, les prières, la lecture, l'écriture, la composition, le calcul, et les différentes sortes de coutures. Elle est obligée de les former au travail, de faire leurs vêtements, de les blanchir, c'est-à-dire laver tous leurs vêtements. J'ai bien dit 41 adolescentes, tout laver ça. De les raccommoder. On faisait du raccommodage dans ce temps-là. Et la sœur ajoute, il n'y a pas encore un an que cette hospitalière a fait sa profession. Ça fait réfléchir, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Moi, ça m'émeut énormément. Au début de 1844, les Oblats de Marie-Immaculée acceptent la difficile paroisse d'Ottawa et le père Telmont expose immédiatement à Mgr Patrick Phelan, évêque coadjuteur du diocèse de Kingston, auquel appartient alors Ottawa, qui est une petite ville, le problème des enfants sans école, dont je vous ai parlé, des malades sans hôpital, dont je vous ai parlé aussi, puis des pauvres sans aide. Et l'évêque propose les Sœurs de la Charité de Montréal, qui sont déjà déclarées disponibles à accepter. Et le 4 décembre 1844, quatre religieuses, donc, reçoivent leur obédience pour Ottawa. Mais Sœur Bruyère n'est pas du nombre. C'est que la date de départ des quatre religieuses n'a pas été très facile à fixer. Pourquoi? Parce que le 11 janvier 1845, la première supérieure choisie est terrassée par la paralysie. Et la deuxième choisie refuse catégoriquement. Devant les difficultés qu'on peut facilement envisager, elle refuse. Pour faciliter alors l'acceptation du mandat, Mgr Bourget détermine un terme de 3 ans, là, pour pas que les sœurs aient trop peur, après lequel la supérieure, qui va fonder à Ottawa, pourra revenir à la maison de Montréal. Alors, aux élections du 5 février suivant, c'est sœur Élisabeth Bruyère qui est nommée supérieure du petit groupe et fondatrice. La jeune religieuse, qui avec un cœur de mère, écrit-on à l'époque, c'est elle-même qui le dit, puis c'était elle l'a dicté, a aidé à tous les préparatifs de départ. Elle accepte le mandat pour rendre service, dit-elle, à la communauté. Et par obéissance, ajoute-t-elle, après avoir objecté pendant plusieurs jours, qu'elle ne se reconnaît aucune vocation de supérieure. Elle n'a que 26 ans, hein, 26 ans. Plus jeune, hein? Et sœur Élisabeth Bruyère et ses trois compagnes, conduites par le père Telmont, la blonde Marie Immaculée, quittent Montréal le 19 février à 8 heures, je signale l'heure, c'est intéressant, à 8 heures du matin, et elles passent la nuit à Montebello. C'est le trajet est long et lent, et c'est pas du tout ce qu'on pense aujourd'hui. Ça se fait quoi, en 2 heures de voiture aujourd'hui? Alors, elles partent à 8 heures du matin, couchent à Montebello, arrivent à Ottawa vers 5 heures de l'après-midi, 17 heures le lendemain, puis elles sont reçues triomphalement par la population. Le champ d'action qui s'offre à Mère Bruyère est très vaste, là. Ottawa passe pour une nouvelle Babylone, tellement son nombreux et complexe, là. Tous les problèmes qui s'y présentent, je répète, les enfants sans instruction, les malades sans soins, les vieillards abandonnés, les pauvres, les immigrés, les malheureux, tout ça. Et en plus, la population est répartie à peu près également entre catholiques et protestants, puis c'est l'hostilité déclarée entre citoyens de langues et de religions différentes. C'était très dur, les oppositions. Hein? Faut dire que les Canadiens n'acceptaient pas tellement d'être conquis, et les autres n'aimaient pas ces gens qui ne voulaient pas devenir anglophones. Les pauvres sœurs grises sont logées dans une petite maison de 8 mètres sur 6 mètres, quoi. Disons 25 par 20 pieds, pour ceux qui calculent encore en pieds. C'est en plein hiver canadien, c'est très dur le froid. Et Mère Bruyère et ses trois compagnes se mettent au travail, sont aidées par le père Telmont, dès le lendemain de leur arrivée. Puis elles commencent les visites à domicile des malades et des malheureux, tout de suite, dès le lendemain. Elles n'attendent pas pour servir le Seigneur. Le 3 mars, donc, 2 semaines après leur arrivée, elles inaugurent dans un hangar la première école pour les filles. Le 10 mai suivant, pas long ça, viennent d'arriver, un tout petit hôpital, le premier de la ville, ouvre ses portes. Puis le 30 mai, le même mois, c'est l'arrivée de la première enfant trouvée. L'œuvre des orphelins commence et toutes les misères se réfugient sous le même toit, en quelque sorte. Et tout ça se fait en quelques jours. Et les œuvres débutent dans une immense pauvreté. C'est la confiance totale en la providence de Dieu qu'ont ces sœurs de la charité, ces sœurs grises. Pour gagner le pain de la maisonnée, là, les sœurs, après s'être dépensées tout le jour auprès des enfants et des malades nombreux, gratuitement, hein, c'est pas pour être payé, ça c'était gratuit, hein. Elles doivent vaquer à des travaux manuels et commander par l'extérieur, parce que là, elles sont payées pour ces travaux-là, ça permet de nourrir. Alors, elles travaillent en plus de ça, après leur journée de travail. C'est des saintes, hein? Des saintes. L'année suivante, en 1846, en septembre 1846, Mère Élisabeth Bruyère organise une école du soir au profit des mères de famille, de la classe ouvrière, et fait des cours d'art domestique, comme on disait, pour les plus grands élèves. Et là, la charité de Mère Bruyère et de ses compagnes se manifeste d'une façon particulière de juin à septembre 47, alors que sévit la grande épidémie de typhus dont je vous ai parlé tout à l'heure brièvement, qui arrivent au Canada avec les immigrés d'Irlande. Ça fait de très nombreuses victimes. Hein. Les sœurs défilent danger de la contagion. Elles foncent, elles se donnent jour et nuit. Vous savez que dans l'ancienne Rome, quand il y avait des épidémies comme ça, on jetait les gens sur le trottoir. On les laissait mourir là. Et c'est comme ça que les chrétiens ont manifesté dans l'ancienne Rome, au début du christianisme, leur charité. Mais c'est la même chose qui dure près de 2000 ans plus tard, et Mère Bruyère et 15 de ses sœurs sont même atteintes du typhus. Remises sur pied, elles retournent au travail, elles veillent les pauvres malades abandonnés et leur solitude angoissante. L'épidémie est enrayée, là. On organise la Maison Saint-Raphaël pour les jeunes filles irlandaises qui sont laissées sans famille et sans emploi. Et on est en œuvre de charité au profit des orphelins irlandais. Si nous, catholiques francophones, n'avions pas été là, où seraient ces pauvres Irlandais aujourd'hui, hein? Mais je ne sais pas s'ils le savent. J'espère qu'ils le savent. Une des circonstances de l'épidémie est l'extrême pauvreté, puis la communauté des Sœurs Grises d'Ottawa est réduite à la misère. Les écoles ont fermé leurs portes pendant toute la durée de l'épidémie. Les autorités civiles retardent même de verser la très petite allocation promise par l'agent des immigrés. Et pourquoi? C'est à cause de la malveillance des ministres protestants, anglophones, qui soulèvent la question, je cite, de l'immixtion des prêtres et des sœurs dans les opinions religieuses des malades. On accuse les catholiques de faire ça. Grand Dieu. Jusqu'où va la bêtise, hein, dans l'histoire, quand on lit ça? C'est révoltant. Alors que des sœurs francophones se dévouent comme ça, mais ces ministres protestants anglophones les accusent n'importe quoi. Ça me révolte. Alors, grâce à l'épidémie qui a sévi à Ottawa, la générosité de Mère Bruyère a attiré plusieurs vocations à sa petite communauté. Les Sœurs Grises d'Ottawa est venue fonder. Le Seigneur permet, on dirait, pour la récompenser, qu'au plus fort de l'épidémie du typhus, 9 nouvelles recrues se présentent au postulat. 9. L'exemple de la charité entraîne l'engagement à la charité. L'exemple des saints nous engage à nous dépasser, à mieux aimer Dieu, à mieux comprendre qu'il n'y a de vie qu'avec Dieu. Dieu illumine les mariages, il illumine la vie des solitaires, il illumine des célibataires, il illumine la vie des grands malades, il illumine la vie des mourants. Dieu est la lumière. Et le 8 février 1848, le mandat de Mère Bruyère comme supérieure expire. Et selon l'entente, bien, elle rentre à Montréal après 3 ans. On en avait parlé tout à l'heure. Et Mère Bruyère est heureuse de refaire ce trajet. Mais ses compagnes, ainsi que le père Telmont, le blanc de Marie Macpulay, cofondateur de la communauté, à Ottawa, ont déjà supplié l'évêque de Montréal puis les autorités de la congrégation de maintenir Mère Bruyère à Ottawa puis dans sa charge de supérieure. Ils lui reconnaissent, je cite, toutes les qualités propres à une bonne supérieure. Quant aux défauts, si elle en a, écrit-on, elle s'en corrigera. Ainsi, Mère Bruyère est réélue à l'unanimité. Mais comme en 1845, elle supplie les autorités de trouver une autre supérieure, et elle dit moins indigne et plus capable. Alors Monseigneur Bourget intervient encore une fois. Il propose un terme de 5 ans cette fois-ci au lieu de 3 ans. Et le 25 février 1848, il enjoint à Mère Bruyère de retourner à Ottawa. Ce qu'elle fait le même jour, hein, elle n'attend pas pour obéir. Quelle femme! Quelle femme! Elle est convaincue d'ailleurs que la volonté de Dieu est manifeste. Alors, elle consacre tout de suite, toute sa vie, toutes ses énergies à sa mission d'Ottawa, au rythme du développement de l'Église, du diocèse, et aussi de l'apostolat missionnaire, là, dans cet immense pays du Canada. Monseigneur Bruno Guigue, un noble de Marie-Immaculée, a été nommé premier évêque d'Ottawa en 1847. Il est consacré l'année suivante, ou ordonné, comme on dit aujourd'hui, et il deviendra le supérieur ecclésiastique de la communauté à la place du père Telmont, le fondateur. Alors la mission de Mère Élisabeth Bruyère se développe. dans les trois domaines suivants. L'éducation de la jeunesse, le service des pauvres, le soin des malades. J'y vais lentement parce que c'est tellement extraordinaire. Trois tâches immenses. Pour ce qui est de l'éducation de la jeunesse, eh bien, en 1848, Mère Bruyère inaugure une école pensionnat à Cornwall, en Ontario. En 1849, en collaboration avec les Oblats, elle assume la direction d'une école, une école d'études supérieures à Ottawa. Et cette œuvre tenait grandement à cœur ce nouvel évêque en vue de contrecarrer les initiatives des protestants. Et heureusement, elle connaît aussitôt le plus grand succès. L'année 1857 marque l'ouverture de la première école à l'étranger à Buffalo, dans l'État de New York, à la demande des Pères Oblats. Dans le même État de New York, là, en 1860, trois ans plus tard, on fonde à Plattsburgh une autre école du même genre, puis enfin, en 63, trois ans plus tard encore, on érige un nouvel établissement à Ogdensburg. Et ça deviendra une des plus florissantes maisons d'enseignement supérieur de la région, ça. Quant au service des pauvres, là, le deuxième élément, ben, dès le lendemain de son arrivée à Ottawa, Mère Bruyère commence par visiter un pauvre paralytique. Écoutez bien ça, c'est dans la meilleure tradition des filles, disons, de Sainte Marguerite d'Youville, Mère d'Youville. Elle reste servante des pauvres tout le long de sa vie. Après avoir ouvert l'asile des orphelins irlandais en 1849, elle accueille les filles repenties, celles qui veulent changer de vie, qui veulent se transformer, cesser d'être des esclaves des hommes, quoi. Et en 1850, elle inaugure à Ottawa une nouvelle maison assez grande pour loger, sous le même toit, les sœurs, les pensionnaires et les pauvres. Et en 1851, Mère Bruyère envoie à Saint-Boniface, c'est loin à l'époque, ça, près de Winnipeg, une sœur, seule, imaginez. Puis en 1855, à la demande pressante de Mgr Alexandre Taché, qui est oblat de Marie-Immaculée lui aussi, elle envoie deux autres missionnaires pour la visite aux malades et le soin des pauvres. Quelle tâche humble et simple que ces femmes embrassaient pour la vie, sous un costume assez lourd et assez astreignant, mais qui était très beau. L'année suivante, en 1856, toujours dans le même esprit de service, eh bien, Mère Bruyère accepte la direction de l'entretien ménager du Collège Saint-Joseph des Pères Oblats. Ce collège va devenir plus tard, écoutez bien, l'Université d'Ottawa. Ben oui. Que tout le monde connaît, l'Université d'Ottawa. Et puis, il y a le soin des malades, finalement, le troisième élément. Et dès le mois de mai 1845, c'est-à-dire 4 mois après son arrivée à Ottawa, Mère Bruyère a transformé en dispensaire, si vous voulez, en CLSC, disons, pour mieux se comprendre, le rez-de-chaussée de sa petite maison. En 1850, là, tous les malades sont soignés dans les nouveaux locaux de la maison mère. 10 ans plus tard, en 1860, à cause du nombre des malades, on commence la construction d'un véritable Ottawa qui va devenir plus tard l'hôpital général d'Ottawa. Et à l'automne de 1871, voilà qu'éclate dans la capitale une épidémie de variole. Tout le monde réclame un hôpital pour les picoter, comme on disait. Mais personne ne le veut, évidemment, dans son voisinage. C'est toujours la même histoire. Et Mère Bruyère, d'accord avec les autorités de la ville d'Ottawa, les autorités municipales, elle organise un nouveau lazaret, comme on appelait ça, dans la cour du couvent, sous le sceau du plus grand secret. Un lazaret, c'est un endroit où on garde les gens qui souffrent d'une épidémie. Et c'est un secret, afin de ne pas inquiéter les gens. On y amène les malades la nuit. Les sœurs les reçoivent. Et on dira que les sœurs ont rien fait, puis que les sœurs sont comme ci, puis que les sœurs sont comme ça. Et encore à la nuit tombante, les sœurs portent même les morts au cimetière. Bien que des imbéciles pour dire que les sœurs ne sont pas des femmes formidables. En tout cas, les sœurs grises. Chapeau pour les sœurs grises. L'activité de Mère Bruyère est de toute évidence presque fiévreuse et ses œuvres connaissent un succès fantastique. Cependant, toutes les fondations débutent dans un état, je le répète, d'extrême pauvreté. N'oublions jamais ça. Puis leur épanouissement occasionne de grands sacrifices. C'est pas comme... On va pas à Québec ou à Ottawa pour demander 10 millions ou 3 millions ou 1 million. Non. Il n'y a rien qui vient, ou presque. Alors, Mère Bruyère fait de très grands sacrifices, sa communauté aussi. Mère Bruyère en particulier. Elle met tous les sacrifices, dit-elle, au compte de la Providence, c'est-à-dire la grandeur du cœur de Dieu. Et à Ottawa, il faut créer de rien, ainsi, en des circonstances bien difficiles, et dans un climat presque de guerre civile entre Canadiens anglais puis Canadiens français, ou entre les Anglais puis les Canadiens, comme on disait à l'époque, il faut travailler fort, et quêter continuellement pour soutenir les pauvres, les vieillards, les orphelins, les malades à charge. Il faut maintenir les écoles aussi, ce qui n'empêche pas que les échéances financières sont souvent bien lourdes. Et l'évêque lui-même est accablé de problèmes économiques. Il peut pas toujours venir en aide à tout le monde, le pauvre. Et Mère Bruyère est encore jeune, elle a 53 ans. Et ses sœurs aussi. Hein. Mais qui les aide, là. Surtout, son inlassable dévouement, son esprit de foi, je dirais robuste, là. Puis le don total à la cause de l'Église, c'est ce qui marque ces femmes. Malheureusement, tant de sacrifices de la part des sœurs usent les santé, et il y a des sœurs qui en meurent. Hein. En effet, dans une période de 15 ans, 17 religieuses dont la moyenne d'âge était de 28 ans sont mortes. Avez-vous compris? Une période de 15 ans, 17 religieuses dont la moyenne d'âge était de 28 ans sont mortes. En 1864, Mère Bruyère elle-même tombe sérieusement malade et pendant plusieurs semaines, sa santé reste pour le moins chancelante. À l'issue d'un chapitre général, une réunion générale des sœurs en 1873, Mère Bruyère est, comme aux élections précédentes, réélue supérieure générale de cette nouvelle congrégation des sœurs grises, celle d'Ottawa, à l'unanimité. Mais dès 1872, déjà gravement atteinte d'une tumeur au côté gauche, elle est souvent obligée de garder la chambre. Elle ne peut plus se permettre de visiter personnellement toutes les maisons qu'elle aimerait bien. Alors elle dirige la congrégation par une correspondance régulière avec ses diverses communautés et on a publié récemment aux éditions Médiapol plusieurs livres, j'en ai trois livres de correspondance, c'est énorme, on n'a pas aidé, c'est publié par sœur Jeanne d'Arc Lortie des Sœurs de la Charité d'Ottawa, c'est considérable chez Médiapol. Hein? Et en 1874, à 56 ans, elle est très affectée par le décès de Monseigneur Guigue, l'évêque, le premier évêque d'Ottawa, puisqu'il est un grand bienfaiteur de la congrégation. Et pendant les dernières années de sa vie, elle a eu beaucoup à souffrir de la présence d'une sœur qui était une pseudo-visionnaire. Ça n'a pas été facile. Mais heureusement, l'évêque savait quoi faire, lui. Et en mai 1875, Mère Bruyère, bien que malade, visite les maisons des États-Unis où les sœurs luttent toujours contre de graves difficultés financières. À son retour à Ottawa, les médecins découvrent une hypertrophie du cœur. Son cœur est trop gros, trop grand, mais c'est incurable. Et le 6 septembre, elle est administrée, on la prépare à la mort. Il y a ensuite quelques jours de mieux sensibles, et Mère Bruyère en profite pour préparer le départ des sœurs qui vont implanter sa dernière fondation, ou à Saint-François-du-Lac, dans le Québec. La veille de Noël, 1875, elle rassemble ses dernières énergies. Elle dicte une circulaire à ses sœurs, ses filles, et c'est son testament spirituel où elle insiste sur l'esprit de simplicité. L'esprit de charité, l'esprit de fidélité à l'Église. Trois vertus qui doivent caractériser la congrégation des Sœurs de la Charité d'Ottawa. Et à ses filles, qui ne cessent de prier pour le rétablissement de sa santé, elle dit « Vous me faites languir avec toutes vos prières pour ma guérison. J'ai hâte d'aller au ciel. » Quelle femme merveilleuse de dire ça la veille de sa mort. Elle a hâte d'aller au ciel. Et en janvier 1876, la maladie entre dans sa dernière phase, et puis le 27 du même mois, là, en janvier, Mère Bruyère est administrée encore une fois en parfaite connaissance. Elle est complètement résignée à tout ce que Dieu veut d'elle. Elle est dans une grande paix. Le 28 mars, Mère Bruyère reçoit le Saint-Viatique, comme on dit, et de nouveau l'extrême onction, le sacrement des malades. Le 1er avril, Mgr Duhamel vient visiter Mère Bruyère et lui donne la bénédiction du pape. C'est une grande joie pour elle. Et le lendemain, bien, elle donne ses dernières recommandations à ses filles, puis elle leur dit encore une plus grande mortification, une plus grande humilité. Avec une grande bonne volonté, on peut faire beaucoup. Et Mère Élisabeth Bruyère, née à l'Assomption au Québec, je vous le rappelle, s'éteint doucement. Après une agonie paisible, le 5 avril, puis l'anniversaire, 1876, un mercredi de la Passion, à 7h40, entourée de ses filles en prière, elle a 58 ans. Elle a été religieuse sur la charité, sur Grise, durant 37 ans de dévouement. Elle a été fondatrice et supérieure durant 31 ans, c'est énorme, et en somme plus de la moitié de sa vie. Et les funérailles ont lieu à la maison mère le 6 avril, le lendemain. Puis le surlendemain, le 7 avril, à la cathédrale, le 7 avril, c'est l'anniversaire du décès de Jésus. Ces deux services religieux sont chantés par Mgr Duhamel, successeur de Mgr Guigues à Ottawa, entouré du clergé, des premiers citoyens, de toute la population de la ville d'Ottawa, et son corps est enseveli dans la crypte de la cathédrale, d'où en 1879, son corps est transféré au cimetière Notre-Dame. Si vous voulez lire au sujet de Mère Bruyère, cette Québécoise absolument admirable, il y a des livres importants. Un livre qui est épuisé maintenant de Sœur Paul-Émile, Docteur Eslettre, de la Congrégation des Sœurs Grises de la Croix ou des Sœurs de la Charité d'Ottawa, c'est les mêmes, ça. Elle est lauréate de l'Académie française. Elle a publié Mère Élisabeth Bruyère et son œuvre, d'immenses bouquins, il y a plus de 50 ans, avec des illustrations, c'est très fourni, très intéressant, mais il y a un plus petit livre qui s'appelle Mère Élisabeth Bruyère, fille de l'Église. C'est le travail d'une autre religieuse, Sœur Béatrice Cloutier. Petit livre qui se lit facilement, de moins de 100 pages, et qui est très, 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 très intéressant. Il y a aussi cette correspondance parue chez Médiapol, Lettre d'Élisabeth Bruyère, en 3 volumes, ou même plus que ça, je pense que c'est 4 ou 5 volumes. C'est considérable. Il y aurait des choses que je voudrais vous dire au sujet de cette Québécoise extraordinaire avant de terminer. Elle était grande physiquement, puis elle était saine et forte. Elle avait des infirmités causées par le surménage, mais Mère Bruyère avait une personnalité puis une spiritualité remarquable. Ce qui l'aidait peut-être, c'est son tempérament bilieux et volontaire. Ça aide à faire des saints, ça, vous savez. Ça peut être des catastrophes, mais ça peut aider. Et dans son cas, ça l'a beaucoup aidé, puis elle a été certainement une femme, comme on disait à l'époque, virile. On dit plus ça aujourd'hui. Une femme solide, une femme courageuse, quoi. Une zélée et généreuse, habile dans la conduite des affaires. Elle avait de grandes compétences dans la direction de toutes sortes d'entreprises délicates. Elle avait une grande largeur de vue aussi. Elle a été d'une activité étonnante. Elle a été aidée à cela dans sa jeunesse par l'exemple qu'elle a reçu, n'est-ce pas, de l'abbé Caron, tout ça, dont je vous ai parlé. Et puis ça lui venait aussi des premiers oblats qui sont arrivés au Canada, les oblats de Marie Immaculée. Elle a été donc lancée comme ça dans cette petite ville de rien du tout qui s'appelait Bytown, qui est devenue Ottawa. Elle s'était donnée à la tâche, on pourrait dire, de l'expansion de l'Église. Avec beaucoup de zèle et d'audace. C'est une pionnière. Hein? Elle a un cœur ouvert à toutes les misères humaines. Vous l'avez vu, hein? Incroyable. Une mère Teresa, finalement. Toujours prête à donner, à se livrer. Sa générosité entraînait toutes ses compagnes à un héroïsme presque quotidien. Je dirais quotidien. C'est sans cesse, ces sœurs grises-là. Hein? Ça n'arrête pas. Même aux élèves des écoles, elle inculquait le zèle. Elle ne voulait pas que ce soit seulement le privilège des religieuses. Elle a été une âme vraiment, vraiment apostolique auprès des enfants et de tout le monde dont elle s'occupait. Les nombreuses réalisations de Mère Bruyère, ce sont des réponses d'amour puis de charité aux appels de son temps puis de son milieu. C'est l'amour, la charité qui menait sa vie. Le besoin des autres, des pauvres surtout, a toujours un écho immédiat dans son âme. Elle est incapable de résister à ses appels. Alors elle agit. Elle dit un jour, « Du moment où nous perdrons l'amour des pauvres, nous perdrons notre esprit propre. » Ça va pour toute l'Église, ça va pour chacun d'entre nous, ça. Du moment où nous perdrons l'amour des pauvres, nous perdrons notre esprit propre. C'est l'esprit du christianisme. Dans son dévouement aux pauvres, Mère-Élisabeth Bruyère va parfois peut-être trop loin. On dit qu'elle en fait tellement. Mais elle continue à s'oublier. Les pauvres, pour Mère Bruyère, ne sont que l'Église elle-même, dénuée de tout en ses membres. Et cet amour pour l'Église, elle l'a légué à sa congrégation. Et ça a engendré toutes les œuvres de charité depuis plus de 100 ans là-bas. C'est une collaboration constante à toutes sortes d'initiatives qui se déroulaient dans les paroisses, dans le diocèse, chez les missionnaires. Elles ont collaboré continuellement. Ça motive tous ces grands renoncements. Ça la lie d'une dévotion filiale au pape, dont elle partage évidemment les grandes peines que le pape avait au siècle dernier. Mais c'était des peines par rapport à ses territoires, et moi ça ne me touche pas trop. Je le préfère dans ce petit territoire du Vatican. Et quiconque parcourt hâtivement sa vie va être tenté de conclure que Mère Bruyère a surtout été une femme d'action et de gouvernement, mais non, c'est une mystique aussi, et une excellente mystique. Elle alimentait son âme au mystère de la croix, qui est source de vie et source de résurrection. Elle s'attachait énormément à l'Eucharistie. Je vous en ai parlé jeudi. Je vous ai montré combien c'est toute la vie de Jésus centrée finalement sur l'Eucharistie, sur cette fusion. Cette fusion qu'il veut avec nous. Où le mangeant, il nous mange. Nous sommes unis. Comme jamais nous ne pourrons être unis à quiconque, même en étant mariés. Elle prend comme modèle les exemples de Sainte Marguerite Diouville. Elle cherche toujours un nouveau don à offrir au Seigneur. Elle a un zèle inventif, une solide piété. Et ses mortifications, même à la fin d'une journée dévorée par le travail, sont toujours là. Elle a un sentiment constant d'indignité. Elle se sait un instrument dans les mains de Dieu. Et ce qui surprend, c'est vraiment curieux dans la personnalité de Mère Bruyère, c'est de voir une femme douée de talents si variés, courageuse, audacieuse, constamment convaincue de son incapacité à guider une communauté. Elle se croit toujours indigne, une humilité sans borne, d'un martyr continuel et secret. Mais grâce à sa maîtrise personnelle, tout ça échappe à la plupart de ses contemporains. Le Seigneur lui envoie comme une force d'équilibre devant les succès de son apostolat. Elle ne s'en fait pas, elle ne devient pas quelqu'un d'autre. Elle a des talents, mais elle sait que ça vient de Dieu, et qu'elle, toute seule, elle n'est presque rien. Elle est admirable, elle est attachante. On ne peut que l'aimer énormément. Le message de Mère Bruyère parle davantage aux chrétiens de nos jours. Elle a pratiqué, en effet, tout ce qu'on prêche avec tant de zèle aujourd'hui. Son exemple d'oubli de soi, de renoncement, de pauvreté, des audaces qui dépasse l'entendement, son souci continuel de perfection, de don aux autres, une fidélité agissante à l'Église aussi. Tout ça, c'est merveilleux. Tout ça, quand on regarde ça à la lumière du Concile Vatican II, on voit qu'elle s'est dépensée sincèrement, honnêtement et radicalement pour le royaume de Dieu. C'est une grande femme. Mère Élisabeth Bruyère, qui mériterait bien d'être canonisée. Prions pour sa canonisation, souhaitons-la. Souhaitons-la.